Prenez les consultants, analystes politiques. Merci à tous. Alors, je démarre avec vous, Marilyn. Il y a 4 ans, le candidat Biden annonçait qu'il se présentait à la présidentielle de 2020 pour, disait-il, sauver l'âme de l'Amérique. Aujourd'hui, il affirme vouloir terminer le travail. Son bilan jusque-là est-il au-dessus de tous les sceptiques qui évoquent son âge?
Le bilan est très satisfaisant. C'est un bilan qui affiche 11 millions de nouveaux emplois. C'est un bilan qui a mis le paquet, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'infrastructure et qui a aussi essayé d'alléger, si vous voulez, les frais auxquels l'Américain moyen a à faire face, comme par exemple les médicaments qui étaient extrêmement coûteux et qui maintenant ont certains médicaments à un prix réduit. Il a aussi s'est penché aussi sur la question des dettes des étudiants. Donc tout ceci, ce sont des choses qui, au quotidien, sur lesquelles les Américains moyens sont confrontés au quotidien et pour lesquelles Biden a su répondre donc à leurs préoccupations. Mais
il reste un peu sur le même thème de sauver l'âme de l'Amérique, en référence un peu à ce que beaucoup considèrent comme des extrémistes, des partisans de Donald Trump. Aujourd'hui encore, c'est un peu, il démarre sa campagne dans ce sens. Est-ce que ça peut l'aider aussi à gagner encore?
Oui, ça peut l'aider encore à gagner parce que les Américains ont encore en mémoire ces événements du 6 janvier qui ont été attisés par les républicains et qui se sont vraiment terminés extrêmement mal puisqu'il y a eu mort de, il faut pas l'oublier, de 5 policiers américains qui défendaient le Capitole. Donc là, ce sont des images vraiment extrêmement dures. Ce sont des images qui coûtent au parti républicain.
Alors, Calvin Dark, beaucoup des partisans de Joe Biden, en tout cas, jugent son bilan positif, mais le dernier sondage NBC révèle quand même que 70% d'Américains, dont 51% de démocrates, ne souhaitent pas qu'il se représente. Qu'est-ce qui le pousse à franchir le pas et sur quoi est-ce qu'il compte s'appuyer?
Oui, je crois que le problème, c'est que parfois, avec ces sondages, si vous posez la question dans une vide, est-ce que Biden doit se présenter, briguer un autre mandat? Naturellement, les démocrates, les gens de tous partis veulent quelqu'un de jeune, avec des nouvelles idées. Mais quand vous posez la même question, est-ce que vous voulez que Biden se présente et voici l'alternative? Républicain, ça change beaucoup. Alors, je crois qu'avec le bilan plus ou moins bon qu'il a, je crois aussi que les thèmes qu'ils ont choisis sont des thèmes blancs et noirs. C'est-à-dire que les démocrates peuvent avoir des autres idées sur le plan économique ou comment résoudre un problème, mais pour vraiment protéger nos droits, protéger nos libertés, pour éviter une scène comme 6 janvier, il n'y a pas une
espace. Charlottesville.
Et je crois que c'est pour ça que les démocrates vont soutenir. Et si Biden se pue sur ça, il a une chance de gagner.
Alors, René, est-ce que vous êtes surpris de l'annonce de Biden et comment doit-il d'abord convaincre sa base avant de se lancer à la conquête des autres électeurs?
Oui, surpris, non. Je pense que on vous l'avait dit au début de l'émission que c'était attendu. C'était juste une question de timing. Écoutez, moi, je pense qu'il pourra convaincre parce que, comme le disait tout de suite votre invité, il y a une question, il n'y a pas vraiment d'alternative. Vous savez, quand on vous pose une question comme ça, une question ouverte, il est facile de dire je pense comme ceci, je pense comme cela, mais quand vous devez faire un choix, il n'y en a pas beaucoup. Alors, votre invité tout à l'heure parlait du choix entre républicains et démocrates, mais moi, je parlerai même du choix parmi les démocrates. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de démocrates qui seraient en mesure de l'emporter. Alors, ils disent souvent, écoutez, notre banc de touche est très large, il y a du monde, ce qui est vrai en soi, mais dans un contexte de très, très grande polarisation de la vie politique aux États-Unis, Biden est peut-être le meilleur choix pour les démocrates. De toutes les manières, je pense qu'une fois que le combat ou l'adversité sera effective entre un républicain et un démocrate, je pense que les démocrates se rallieront derrière Biden.
Et justement, Marilyn, la vice-présidente Kamala Harris, dans tout cela, certains évoquent son impopularité dans les sondages et donc pas forcément un candidat viable pour les démocrates en 2024. Pensez-vous que cela pourrait avoir été un facteur déterminant dans le choix du président Biden de se représenter?
Alors, on parle souvent des sondages qui ne sont pas extrêmement favorable à la vice-présidente. Toutefois, en ce moment, la Maison-Blanche est en train de justement préparer davantage la vice-présidente. Comme vous l'avez remarqué récemment, elle était très présente sur nos écrans parlant justement de l'avortement, des sujets très sensibles, des sujets qui touchent les Américains. Et donc, c'est une forme, si vous voulez, de campagne, c'est un aspect de la campagne que l'on met en avant pour justement soutenir, booster la vice-présidente en tant que colistière.
Alors Calvin, on a vu la vice-présidente, même dans la vidéo de l'annonce de la candidature du président Biden, mais vous pensez que cela a été un facteur, le fait que peut-être certains pensent qu'elle n'est pas très, très populaire?
Non, je crois que l'essentiel de la décision de Biden, c'était que après les victoires pour les élections de mi-mandat en novembre 2022, a pris la décision qu'il peut briguer un autre mandat. Mais il y a aussi la vérité qu'il y a un problème de visibilité pour la vice-présidente, et je crois que ces images dans la vidéo que nous avons vues et aussi je sais qu'ils sont en train de lui donner des autres projets où elle peut gagner. Par exemple, pour les premières deux années, ses dossiers, c'était l'immigration. Oui, et il y a des administrations républicaines, démocrates, qui n'ont jamais réussi sur ce thème. Alors, ce n'est pas juste de dire qu'elle n'a pas réussi ou les autres n'ont pas réussi. Alors, je crois que pour l'avenir, ils vont positionner à Kamala Harris, la vice-présidente, pour qu'il puisse peut-être briguer un mandat en 2028.
Alors, Calvin, l'avocat Robert F. Kennedy, qui est membre de la dynastie politique du même nom et également l'écrivaine Marianne Williamson, avait déjà annoncé leur intention de briguer la nomination démocrate. Vous pensez que d'autres personnalités plus influentes que ces deux pourraient se jeter dans la course et défier un peu Joe Biden?
Moi, je crois que ces deux candidats ne sont pas des candidats sérieux. Même avec, surtout, Robert F. Kennedy Jr., il a dit dans son discours que la famille Kennedy soutient Biden. Et c'est la même chose avec Marianne Williamson.
D'accord.
Mais je crois que l'annonce cette semaine, ça coupe tout la concurrence au sein du Parti démocrate. Je crois que même avec les progressistes qui vont se plaindre un peu du bilan pour leur politique progressive pour Biden, ils vont consolider leurs efforts et se concentrer sur l'ennemi. Ça va être le nominé pour le Parti
démocrate.
D'accord. C'est Trump.
Alors, Rona McDaniel, qui est la chef du Parti républicain, en réaction à cette déclaration de candidature, a dit que Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter 4 ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises, ce sont ses termes. Alors, une candidature du président Biden, est-ce forcément du pain béni pour les républicains?
Oh, je ne sais pas, parce que vous savez ce qu'elle dit, c'est exactement, elle se fait l'écho de ce que Trump lui-même dit. Vous noterez au passage, Abdulrahman, que Trump, malgré les sondages qui ne soient pas favorables à Biden sur la question de l'âge, a eu une sorte de litanie de critiques vis-à-vis de Biden, mais à aucun moment il n'a parlé de la question de son âge. Peut-être parce que il s'inquiète un peu aussi de la perception que les gens peuvent avoir du sien. Donc, mais je pense que ce sont juste des critiques de bonne guerre. Mais je crois que d'un point de vue politique, quand il s'agira de discuter du bilan, le bilan de Biden est relativement impressionnant par rapport à une situation politique très polarisée. Je crois que ce soit chez les démocrates comme chez certains analystes républicains, les gens ont même été un peu surpris par ce qu'il est arrivé à faire, notamment au plan législatif.
Mais comme vous disiez une fois... vous me disiez une fois lors d'une discussion, René, que certains sous-estiment Biden.
Oui, en fait, c'est un peu ça, et je crois que même les progressistes un peu le sous-estiment parce que il est arrivé d'un point de vue politique à faire passer pas mal de revendications, en tout cas de demandes des progressistes, au point même que si vous vous souvenez, certains républicains disaient qu'il avait un agenda socialiste et qu'il était l'otage des progressistes. Donc je pense que l'un dans l'autre, je pense qu'il s'en sortira. Maintenant, la question, ce sera de savoir est-ce que quelqu'un comme Bernie Sanders, sans être un candidat vraiment très sérieux, a priori, voudrait peut-être mettre un peu de pression sur Biden pour le pousser un peu sur la gauche.
D'accord.
On peut imaginer quelque chose dans ce style-là. Alors. Mais je pense qu'il n'y aura pas de candidat sérieux du côté démocrate, comme le disait Calvin tout à l'heure.
D'accord. Avant d'aller aux commentaires Facebook, Marilyn, un mot sur peut-être les défis au niveau de sa base, surtout au niveau de l'aile progressiste. Est-ce qu'il risque de se faire challenger par des candidats autres que les deux-là?
Non, je ne pense pas qu'il va se faire challenger par d'autres candidats pour la simple raison que historiquement, il est toujours de bonne guerre et de bon ton et dans les règles de l'art que le candidat sortant ne soit pas justement challengé. Pourquoi ? Parce que ça lui donne davantage de soutien, de points. Et quand toutes les rares fois où dans l'histoire américaine il y a eu d'autres candidats d'autres candidats du même parti face au président sortant, eh bien ça ne s'est pas très bien passé.
D'accord.
Oui.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Las Gasek est à Dakar. Il nous dit que le président Biden s'est basé sur son propre bilan pour solliciter un second mandat. C'est pourquoi une éventuelle candidature de Donald Trump ne saurait être un obstacle à sa candidature. Par ailleurs, d'aucuns ont évoqué son âge avancé qui, selon eux, pourrait être un handicap. Cependant, son grand âge ne l'a pas empêché de remporter les élections devant Trump qui était plus jeune et qui briguait un second mandat. Excellence, il se fait appeler Excellence Trump Kaba, il est à Conakry, il dit que la victoire de Trump est assurée, j'ai toujours dit que Biden n'est pas à la hauteur. Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit que si Joe Biden a tenu ses promesses et se vante d'avoir fait passer d'ambitieuses réformes, le président démocrate a aussi déçu, notamment au sein des communautés africaines américaines et des jeunes. Le principal enjeu sera de mobiliser les électeurs pour qu'ils ne restent pas à la maison le jour du vote. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
De vous retrouver pour la la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités, Marilyn Sifok, professeure de langue à Howard University, également analyste politique, toujours à Washington, Calvin Dark, chroniqueur politique, analyste politique et cofondateur de RC Communication et toujours dans la capitale fédérale américaine, René Lec, consultant et analyste politique. Marilyn, au stade où nous sommes, si rien ne change, même si on est loin de novembre 2024, le fait que les sondages puissent même évoquer un remake de Biden-Trump, qu'est-ce que cela vous inspire comme analyse?
Oui, je pense qu'il devrait y avoir un remake, comme vous dites, de Biden-Trump. Je pense que les résultats seront sans doute les mêmes, pour la bonne raison que le bilan politique de Joe Biden, c'est un bilan qui est tout de même excellent, parce que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le chômage a été autant endigué. Donc ça, c'est un résultat qui est quand même extraordinaire. L'autre résultat extraordinaire, c'est aussi les projets d'infrastructures qui sont en train d'être mis en place. Les États-Unis ont une infrastructure qui, bon, il y a des années de cela, était le top, et maintenant ce n'est pas le cas, et donc ces infrastructures méritent d'être renouvelées, et ça fait partie du programme de...
Est-ce que la question de l'âge est une question légitime pour...
Alors maintenant, on dit souvent que quand on a que 40 ans, c'est le nouveau 20 ans, et donc par association, 80 ans, ce serait le nouveau 60 ans. Donc je pense que les questions d'âgisme, évidemment, vont faire surface, mais on doit dire que quand même, ce qui est important, ce n'est pas tellement l'âge, mais c'est la possibilité de l'individu de fonctionner, d'avoir toutes ses capacités intellectuelles, motrices. Et ça, il a montré, le président Biden a montré que c'était le cas.
D'accord. Et j'ai envie de vous demander, Calvin, en faisant tout le temps référence à l'âge de Biden et de Trump un peu, est-ce qu'on ne fait pas vraiment dans l'âgisme, ou s'agit-il d'une question légitime vu la lourdeur de la charge présidentielle?
Oui, pour moi, c'est vraiment une question légitime. Et je crois que pour vraiment faire face à cet obstacle, Joe Biden doit parler directement, adresser la question directement. Parce qu'il a admis autant. Il a dit que l'âge, c'est vraiment une question, mais l'explication après, il a dit « je me sens bien ». Je suis sûr qu'il se sent bien, mais je sais que d'être président et à la fois mener une campagne, pas la campagne pendant la pandémie COVID, mais la campagne maintenant, plein de déplacements, plein de discours, plein d'activités à la fois, ça c'est presque impossible pour quelqu'un de 40 ans. Je ne peux pas imaginer le faire si j'avais 80 ans. Alors je crois que la question c'est légitime, mais je crois aussi que ce n'est pas la question la plus importante. La plus importante va être qui est l'alternative et qu'est-ce qu'il va faire pour le second mandat qu'il n'a pas réussi à faire dans le premier.
René, quel est un peu votre point de vue sur la question? Parce qu'au-delà même de la station présidentielle, le constat est un peu pareil, même au Congrès, ce qui pose un peu la question du renouvellement du leadership politique. Est-ce que c'est un débat légitime aujourd'hui?
Oui, il est tout à fait légitime. Et vous savez, dans le cas de Biden, l'une des difficultés qu'il a, vous savez, jeune, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de bégaiement. Et quand il est fatigué, ce qui est tout à fait normal, cela peut réapparaître. Ça lui est arrivé 2-3 fois dans des town halls, même dans un débat, si vous vous en souvenez. Et donc, c'est vrai qu'avec l'âge, et on le voit récemment, je vois dans certains de ses discours, parfois il a des difficultés à s'exprimer, justement liées à ce problème-là de bégaiement qu'il a.
Donc c'est pas sûr forcément que ça... l'âge, alors, c'est juste...
Oui, en fait. Disons que l'âge est un facteur accélérant. Plus on vieillit, moins on a la capacité à contrôler ce bégaiement-là, ce qui fait que, et ça quand même, c'est relativement perceptible. Mais je ne pense pas que ce soit essentiel. Encore une fois, je crois que les questions politiques, c'est cela qui va être le plus
oui,
important.
Et surtout que René, quand même, à 40 ans, on peut ne pas être en bonne santé ou en tout cas ne pas avoir l'énergie pour faire ce boulot.
Oui, en plus de ça, bon, vous savez, ce qui va être important, c'est plutôt son entourage. Si vous arrivez à vous entourer de jeunes, dynamiques, etc., et que vous arrivez à porter l'espoir. Parce que vous savez, Abdulrahman, souvent les gens se disent, oui, écoutez, il a un bon bilan, c'est le bilan qui va le faire réélire. Je n'ai encore jamais rencontré vu d'élection où quelqu'un est élu à partir d'un bilan. Parce que ce qui est le bilan, ce qui est déjà acquis, ce n'est pas tellement la préoccupation de l'électeur. L'électeur, ce qui l'intéresse, c'est le futur. C'est qu'est-ce qui va se passer pour lui dans son présent, dans son futur, qu'est-ce qui va changer. Donc c'est la capacité à donner de l'espoir aux gens. Donc oui, s'il arrive à avoir un discours d'espoir pour les Américains, je pense qu'il s'en sortira bien.
Oui, on n'a plus malheureusement beaucoup de temps, mais Marilyn, j'aimerais vous demander, peut-être à vous tous, pourquoi est-ce qu'il semble un peu plus difficile pour les hommes et les femmes politiques plus jeunes de s'imposer en politique, surtout au niveau national, hein?
Vous savez, l'expérience compte énormément. Quand on a, comme Joe Biden, par exemple, autant d'années en tant que sénateur, on a acquis toute une expérience, des années de pratique de la politique. Et en matière de politique, surtout en politique américaine, un pays aussi grand que les États-Unis, aussi important, je pense que l'expérience compte pour beaucoup. Ça se voit dans la facilité, la capacité à rassembler un certain nombre de personnes. Il y a derrière tout cela tout un historique, toute une histoire.
D'accord. Oui, Calvin, pour vous, l'âge, c'est un peu un facteur rassurant aussi. Ça explique un peu pourquoi on a plus de personnes d'un certain âge au niveau national.
Je crois que la culpabilité pour ça, c'est chez les vieux leaders. Je sais ça parce que les choses qu'ils font que pour améliorer nos vies, ils oublient une chose. Ça, c'est de préparer le chemin et pas à tenir le pouvoir jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'il y a un manque, un bench des jeunes démocrates. Il faut à la fois, ces leaders vieux, de faire son travail, mais aussi préparer les autres et pas attendre jusqu'au dernier moment pour encourager et pousser ces jeunes, sinon on va avoir une vide de leadership chez les démocrates, et je crois que c'est aussi un problème chez les républicains.
Et René, peut-être pour terminer, que vous inspire ce débat au moment où, en Afrique par exemple, il y a des pays qui essaient d'imposer une limite d'âge pour occuper la fonction présidentielle? Est-ce qu'on...
Oui, écoutez, Abdulrahman, c'est un problème qu'on retrouve dans tous les regroupements humains. Dès que des gens arrivent au pouvoir, la tendance naturelle, c'est de vouloir y rester le plus longtemps que possible, ad vitam aeternam, même si cela est possible. Donc la seule manière, à mon avis, de le régler, c'est qu'il faut légiférer, il faut qu'il y ait des règlements qui empêchent cela. Mais on ne peut pas le laisser à l'initiative de l'être, je pense, dans toutes les sociétés, dans toutes les activités, c'est pas seulement en politique, dans le secteur privé, dans le secteur associatif, l'être humain a tendance à vouloir maximiser et garder son pouvoir le plus longtemps que possible. C'est pour ça qu'il faut le régler par de la réglementation, par un système de valeurs que l'on peut promouvoir. Donc c'est une question philosophique globale, et je crois qu'effectivement il faut, elle est légitime, il faut absolument la régler. Ainsi, on ne peut pas la laisser bon vouloir des êtres, à mon avis.
D'accord. En tout cas, certains diraient peut-être qu'en limitant l'âge, on pourrait aussi se priver de compétences. Mais c'est un débat qu'on va poursuivre, n'est-ce pas? Merci. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.